20h30, c'est le moment de retrouver le magazine d'archéologie de France Culture, Carbone 14. Salut des aromas, salut à ceux qui furent, sont et seront tes fils, prêts à souffrir et à mourir pour ta puissance, ta gloire. Cette phrase, mes invités l'ont sûrement reconnue, celle du haut du Capitole le 24 avril 1924 de Mussolini exaltant la romanité, une romanité passée et à venir. Après la Rome des Césars, celle des papes, puis la fasciste, la romanité semble aujourd'hui revenir en force. Pour autant, qu'est-ce que la romanité ? Pour savoir qu'est-ce que la citoyenneté romaine, comme cette romanité qui fait aujourd'hui débat, entrevoir le nouveau musée de la romanité au cœur de la Rome française, deux invités, Dominique Dard, Michel Christol. Bonsoir.
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 Dominique Dard, vous êtes justement l'heureuse conservatrice en chef du nouveau musée de la Romanité, édifié par Elisabeth de Pozenpark, à Nîmes, bien entendu. Historien, spécialiste de l'Antiquité romaine, Michel Christol, vous êtes professeur émérite à l'Université de Paris 1, incontournable spécialiste de la Narbonnaise. Merci d'être ce soir avec nous. Rome et la Gaule, voilà une histoire sur laquelle le magazine d'archéologie de France Culture revient souvent. Pourtant, bien avant l'effondrement de la Gaule indépendante, le sud de la France était déjà conquis, Michel Christol ?
Il était conquis, maîtrisé, mais au prix de difficultés tout de même. Car le monde celtique, les Gaulois autrement dit, avaient été au IIIe siècle et au IIe siècle des adversaires difficiles pour Rome, mais en Italie, dans ce qu'on a appelé ensuite la Gaule cisalpine.
Et oui, l'affaire Brennus et autres.
Il y avait Brennus, et le souvenir de Brennus avait longtemps marqué la mémoire des Romains. C'était une défaite amère pour les forces romaines. Mais la conquête de la Transalpine, c'est-à-dire de la Gaule qui se trouvait au-delà des Alpes, a été une affaire qui a été conduite par Marseille. Marseille menacée a fait appel à son allié. Rome était empressée de la soutenir, mais la présence romaine dans le sud de la Gaule s'est précisée à ce moment-là, lorsque, au-delà de la défense de l'intérieur marseillais, les généraux romains, les consuls, Domitius et Aelobarbus entre autres, se sont dirigés, se sont établis dans le Languedoc occidental, c'est-à-dire autour de la basse vallée de l'Aude, de la région où sera plus tard fondée Narbonne.
On n'est bien sûr pas en moins 52, on est en 125-121 pour cette prise de Rome sur cette région.
Voilà, nous sommes en 125-121. Parfois, les campagnes ont commencé un peu plus tôt dans l'intérieur marseillais. Elles se sont poursuivi quelques années après, puisque l'on place la fondation de Narbonne dans les années 116-118.
Alors cette nouvelle province va des Pyrénées aux Alpes. L'idée de Rome n'est-elle pas de relier ou d'être relié enfin à l'Espagne ?
C'est un élément important dans la mesure où la présence romaine s'est affermie dès le début du IIe siècle avant Jésus-Christ en péninsule ibérique, à la fin des guerres puniques, et en quelque sorte, l'installation dans la région de Narbonne était le prolongement de cette présence en péninsule ibérique.
Alors bien sûr, cette région portera divers noms, la province, la Gaule transalpine, la Narbonnaise, la Bracata, le pays des Brais, sorte de pantalon que portaient les Gaulois.
Les noms varient suivant les périodes, mais ce que je voudrais relever, c'est l'expression qui se trouve dans un auteur qui écrivit vers les années 70 après Jésus-Christ. C'est Pline l'Ancien qui dit que c'était beaucoup plus l'Italie qu'une province. C'est-à-dire qu'il fait le bilan de deux siècles de présence romaine, deux siècles qu'on pourrait appeler deux siècles de romanisation, et son bilan est, si je peux dire, imparable. La province est devenue le prolongement de l'Italie. La Gaule transalpine est devenue liée à la Gaule cisalpine. Ce sont deux régions profondément romanisées qui sont des fleurons de ce qu'on pourrait appeler, en fonction du titre de l'émission, des fleurons de la romanité.
Comment s'est fait cette romanisation des Gaulois? Assez vite, semble-t-il, à en voir certains vestiges. J'étais par exemple à Uzès il n'y a pas si longtemps, où d'ailleurs des très belles mosaïques avaient été trouvées. On avait des dates visiblement très anciennes et déjà donc un univers totalement romain.
Si je reprenais les éléments qu'a déjà analysés Christian Goudineau et d'autres avec lui, on peut penser que le contact fut tout de même un contact assez contrasté, car il eut des heures sombres. Cicéron rappelle comment furent expulsés de leurs terres ceux qui résistaient à la présence romaine et à la puissance romaine. Mais en même temps, il y a eu, et c'est une particularité, Christian Goudineau l'avait étudié à propos des Vaucances, il y a eu, pour une partie de la classe dirigeante, une attirance réelle vers le pouvoir romain, vers l'assimilation, l'apprentissage du latin, la participation aux aventures militaires de Rome, pas seulement les aventures de César, mais déjà celles de Pompée en péninsule ibérique, puis celles de Pompée en Orient, et ceux qui s'étaient engagés aux côtés de Rome en retirèrent le droit de cider. Ils étaient devenus romains, ils étaient passés au sein du peuple vainqueur.
Tout n'est pas rose dans la nouvelle belle province. En 1908, les Cindres et les Teutons ravagent cette Narbonnaise, notamment au travers d'une bataille dont certains archéologues auraient tout récemment retrouvé les traces. Vous êtes au courant? Vers Orange?
C'est vers Orange. Et cela confirme tout ce que l'on savait déjà par quelques textes, mais c'est beaucoup plus précis maintenant et l'on s'aperçoit combien l'archéologie a été une discipline qui a apporté énormément à la connaissance de notre monde celtique.
En tout cas, cette conquête est avant tout la création de toute une série de villes, dont Narbonne en tête.
Narbonne, oui, capitale. Mais dans un Languedoc antique où la vie collective est polarisée autour de deux villes relativement pérennes que sont Nîmes et Béziers, Nîmes à l'est, Béziers à l'ouest, la création de Narbonne est un événement important car c'est une ville neuve dans laquelle s'ancre la présence romaine, une capitale, une colonie, c'est-à-dire l'installation d'une communauté de citoyens romains venus d'Italie. Narbonne est une projection de la cité romaine hors de l'Italie. Elle a donc des spécificités tout à fait remarquables et elle va bénéficier tout au long de son histoire de ce privilège d'être la première colonie romaine en Gaule et d'avoir été ensuite, disons, capitale provinciale.
Bien sûr, Marseille, quant à elle, restera longtemps indépendante. Qu'en est-il pour Nîmes de Dominique d'Arde?
La création de Nîmes intervient dans la deuxième moitié du 1er siècle avant notre ère, à l'époque césarienne, plus vraisemblablement augustéenne. Et la particularité de Nîmes, c'est que la ville romaine, qui sera une cité de droit latin, va succéder à une agglomération pré-romaine, proto-historique pourrait-on dire, qui était déjà extrêmement importante dans cette région du Languedoc oriental. Nîmes, au deuxième âge du fer, joue en quelque sorte le rôle de métropole, politique et commerciale sans doute, du peuple des Volques aricomiques, le peuple qui est installé dans cette partie est de notre actuel Languedoc. Et cela va avoir des conséquences sur la configuration de la ville romaine. On estime à l'heure actuelle l'étendue de la dernière agglomération gauloise à une trentaine d'hectares qui se sont développés autour d'une source, la source de la Fontaine, qui est le véritable lieu fondateur de notre cité. C'est autour de cette source et sur les pentes du mont Cavalier que le premier établissement s'est créé aux alentours du 6e, 5e siècle avant notre ère. Les fouilles archéologiques relativement récentes ont permis de préciser les limites de cette première agglomération. Et ensuite, quand on regarde la carte de la ville romaine, on s'aperçoit que cette agglomération proto-historique s'est trouvée véritablement englobée dans la ville romaine, qui passera, elle, à 220 hectares, qui sont enfermés dans une enceinte bien connue d'environ 7 km de longueur.
Jacques-Christophe, je rebondis sur ce que disait Dominique Darde. Bien sûr, tout le monde connaît la maison carrée à Nîmes. Ce que l'on ne sait pas, c'est que Nîmes fut une colonie de droit latin et non pas de droit romain.
C'est une particularité de la Transalpine. Mais on peut penser que ce qu'on appellera le modèle de la colonie de droit latin a été exporté de Gaule-Cisalpine, dans la mesure où la province, c'est-à-dire le territoire que devait administrer César lorsqu'il obtint son proconsulat, cette province de César comportait la Gaule Cisalpine, donc le nord de l'Italie, la plaine du Pô, et la Gaule Transalpine. Et depuis déjà 3 décennies, existaient en Gaule Cisalpine des communautés qui étaient organisées comme colonies de droit latin, et on peut penser que c'est César qui transféra de l'Est vers l'Ouest, ce modèle qui avait si bien réussi. Une colonie de droit latin, c'était une communauté dont les institutions étaient des institutions romaines, dont l'organisation s'inspirait beaucoup de l'organisation des colonies romaines, mais qui incluait à la fois des citoyens romains et des hommes libres qui ne l'étaient pas, mais qui pouvaient, eux ou leur famille ou leurs descendants, franchir la barrière de la citoyenneté en exerçant les magistratures. Bref, les colonies de droit latin, ou les cités de droit latin plus largement, c'était des communautés organisées de façon à permettre la progressive intégration dans la citoyenneté romaine de l'ensemble de leurs membres.
Dominique Darde, Nîmes, c'est une frappe de monnaie, aujourd'hui largement reproduite sur les pavés de la cité, le fameux As de Nîmes, un as qui raconte une histoire.
Et oui, l'as qui est en réalité un Dupondius, mais on va l'appeler l'as de Nîmes, la monnaie au crocodile, qui a été frappée à l'époque d'Auguste. Nous connaissons 3 émissions, au début, au milieu et à la fin du Principat d'Auguste, en fait. Alors, au droit de ces monnaies sont représentées les effigies d'Agrippa et d'Auguste. Et au revers, c'est là que cela devient un peu plus anecdotique, on découvre un crocodile qui est attaché par une chaîne à une palme. Qu'est-ce que cela peut bien signifier ? Eh bien, à l'heure actuelle, on considère qu'il s'agit en fait d'une commémoration ou d'un hommage rendu à Auguste, qui, alors qu'il était encore Octavien, vous le savez, a remporté cette bataille d'Actium contre son rival Antoine et l'armée égyptienne, l'armée de Cléopâtre. Donc on comprend tout de suite le symbole de cette victoire et en quoi cela représente un hommage rendu à ce prince qui fut si généreux envers notre cité.
Nîmes, c'est désormais un grand musée dont vous avez la responsabilité, Dominique Darde. Allez, comptez-nous vos merveilles.
Alors, je tiens d'abord à dire que le musée de la Romanité, c'est avant tout un musée archéologique. C'est lui
qui... Et qui n'est pas que de la Romanité, d'ailleurs.
Oui, on va y revenir. Alors, Nîmes est connu non seulement pour ses monuments romains très bien conservés, comme sa sœur et sa voisine Arles, mais également pour la richesse de ses collections archéologiques municipales. Je précise que ces collections sont constituées depuis très longtemps, depuis des siècles. On arrive à tracer l'histoire de ces collections jusqu'au XVIe siècle. Par ailleurs, c'est une des villes de France où l'activité archéologique, l'archéologie préventive, est la plus dynamique.
C'est les fameuses découvertes de l'avenue Jean Jaurès, par exemple, avec cette extraordinaire mosaïque de Ponté.
Et oui, et on a l'habitude de dire que cette fouille très très importante qui a eu lieu sur l'avenue Jean Jaurès en 2006-2007 a été l'élément déclencheur pour que la décision soit prise de créer un nouveau musée archéologique. Il est vrai que cette fouille qui a été conduite par l'INRAP et sous la responsabilité de l'archéologue Jean-Yves Breuil, a permis de mieux connaître l'urbanisme à l'époque romaine dans un quartier résidentiel, mais également de comprendre comment ce quartier a pu s'installer sur un territoire qui, je l'ai dit précédemment, était déjà occupé.
France Culture, Carbone 14, Vincent Charpentier.
L'ancien contre le moderne, voilà un sujet qui concerne aussi votre musée, la modernité d'une architecture face aux arènes antiques.
Eh oui, c'était quelque chose d'extrêmement difficile, je vais presque parler d'une gageure, que de demander à un architecte de construire un nouvel établissement culturel à Nîmes en face de l'amphithéâtre romain. Elisabeth de Porzamparc explique ses réflexions quand elle a su qu'elle avait remporté le concours et elle dit qu'elle a choisi le parti de la confrontation, en quelque sorte, entre les deux édifices dans un souci d'harmonie. À la rigidité des arcades de l'amphithéâtre romain construit en pierre calcaire, en calcaire dur, elle a opposé la légèreté, la transparence d'un bâtiment qui est recouvert d'une double peau de verre qui évoque par la juxtaposition de ces petits carrés, la mosaïque romaine, et par les ondulations qui sont imprimées à la façade, et également le plissé du vêtement antique.
Mes chers Christelle, depuis la chute de Rome, l'héritage antique est revendiqué. C'est le cas aujourd'hui de plusieurs villes du Midi de la France, Nîmes, Narbonne, Arles, Marseille, vivant sa propre vie massaliote.
Vous me permettrez d'ajouter Béziers, car si je ne l'ajoutais pas, je me ferais reprocher cela par mes compatriotes bitérois. Mais ce passé romain, que l'on redécouvre actuellement à Vaison, par exemple, avec des fouilles remarquables, est un élément déterminant dans l'histoire des cités de la Gaule méridionale. Mais Nîmes a la chance d'avoir une partie de ces monuments romains qui ont été préservés, qui restent émergés. Même si, par exemple, dans le cas des arènes, il a fallu, au début du 19e, évider complètement d'une série de maisons qui encombraient l'espace intérieur, le monument. Mais Nîmes a ces monuments qui sont visibles, et c'est peut-être cela qui, dans le vécu nîmois, donne parfois l'impression à certains des habitants d'être quelque peu romain, c'est-à-dire de porter la toge qui est le symbole de l'appartenance à la cité romaine.
Évoquons maintenant la citoyenneté pour mieux comprendre cette romanité. Par exemple, qu'est-ce que la citoyenneté romaine, Michel Christol ?
Avant d'arriver à la citoyenneté, je vais faire une petite parenthèse sur la romanité. Le mot apparaît chez un auteur chrétien au début du 3e siècle, chez Tertullien. Et puis, je n'ai pas l'impression qu'il y ait d'autres attestations dans le vocabulaire, même si on peut penser que nous échappent des attestations qui auraient été relativement nombreuses. Mais qu'est la romanitas pour Tertullien ? La romanité, chez Tertullien, apparaît dans un traité intitulé « Le manteau », qui rappelle la tenue du philosophe en opposition à la tenue du citoyen. Et dans ce contexte-là, la romanité, c'est pour Tertullien quelque chose, je ne dis pas d'accessoire, mais de daté, de marqué par rapport à sa foi de chrétien. C'est-à-dire que elle n'a sûrement pas, dans le contexte de Tertullien, le sens positif qu'elle avait dans le discours mussolinien. Elle a plutôt un sens beaucoup plus relatif, je ne dis pas négatif, mais plus relatif. J'en viens maintenant à la citoyenneté romaine.
Oui, on est romain avec ou sans suffrage, parfois on le devient même.
Voilà, la particularité du droit latin, c'est qu'on peut le devenir. On était libre, mais considéré comme étranger à la cité romaine, et puis on peut, par l'exercice des magistratures, par le mariage, etc., on peut le devenir. On passe d'une catégorie qui est considérée comme de second rang à la catégorie qui est considérée comme le peuple vainqueur, avec tous ses privilèges, tous ses avantages. Mais dans le cas de la Gaule méridionale, ce qui est remarquable, et je reviens à la présentation que fait Pline l'Ancien, vers 70, lorsqu'il classe les cités de Gaule narbonnaise, il ne mentionne pas, parce qu'il n'y en a plus, il ne mentionne pas de cités stipendiaires, c'est-à-dire de cités qui seraient soumises à l'impôt marquant leur défaite et leur déchéance face au peuple romain. L'ensemble des cités est déjà passé, si je peux dire, dans l'excellence. Elle est orientée, elle est ou bien dans la cité romaine ou bien orientée vers elle.
En tout cas, cette citoyenneté romaine fluctue, semble-t-il, avec le temps.
L'histoire de la citoyenneté romaine, c'est l'histoire d'une progression vers, disons, l'aboutissement qu'est, en 212, la décision de l'empereur Caracalla d'octroyer à tous les hommes libres de l'Empire le droit de cité romaine, c'est-à-dire de faire une sorte de cité œcuménique, une cité qui remplit l'Empire romain. C'est un parcours très long qui dure sur plusieurs siècles. Quelques étapes sont les suivantes. En 90 avant Jésus-Christ, c'est l'octroi du droit de cité romaine à l'ensemble des cités d'Italie. C'est un grand pas vers la généralisation de la cité romaine. C'est l'acceptation d'un élargissement important. Puis, c'est la diffusion du droit latin à l'époque de César et de ses successeurs à diverses provinces qui fait orienter vers la cité romaine ses populations provinciales et aboutissement, en 212, c'est la constitution antonine, cette décision qui finalement met un point terminal à une évolution de quelques siècles.
Michel Christol, évoquons cette romanité. La romanité, ce n'est pas ce qui évoque la civilisation romaine, loin de là, ce n'est pas la latinité.
La latinité est un facteur constituant. Plutôt que d'employer le mot de romanité, il vaudrait mieux employer l'adjectif romain. Cité romaine. Peuple romain. La toge, qui est le vêtement distinctif du citoyen romain. C'est-à-dire que je préférerais utiliser l'expression d'usage romain. Les mores, ce que Caton appelait les mœurs. C'est-à-dire la tenue, les codes vestimentaires, les comportements, l'acquisition du latin. Et puis, aussi, le culte des dieux romains. Ce culte-là, on le trouve à Nîmes aussi, en tant que colonie latine. Mais il y a un Nîmes qui résiste bien, qui ne change pas de nom. Le dieu qui a donné son nom à la cité, le dieu Nemosus.
La romanité ne s'avère-t-elle pas aujourd'hui fantasmée par les monuments de Nîmes, par exemple, ou peut-être aussi par la tête de l'éventuel César de Arles?
C'est la recherche de l'exceptionnel, c'est la recherche du plus. C'est la majoration, la tendance à majorer peut-être un certain nombre de faits, de constatations, d'analyse, c'est l'envie d'apparaître peut-être plus romain que le voisin. Il ne faut pas oublier cet aspect guerre de clochers, compétition.
Mais elle existe, cette compétition. Elle existe, bien sûr, entre Nîmes, Narbonne, qui est la capitale de la Narbonnaise, peut-être Arles, non?
Elle existe, en général. Plus les villes sont voisines, si je peux dire, plus il y a de rivalité ou de compétition. Narbonne se flatte d'avoir été capitale provinciale, puis métropole ecclésiastique de la province. Elle avait un archevêque. Nîmes n'était qu'un évêché. Elle existe entre Nîmes et Arles, qui sont trop voisines, trop semblables. Même si les collections muséographiques sont différentes et complémentaires.
Qu'on le veuille ou non, la notion de romanité fait corps avec l'État fasciste italien.
C'était presque inévitable, étant donné le terreau dans lequel s'est développé l'État fasciste, et c'était presque inévitable dans la mesure où les diverses communautés de l'Italie font corps avec cet héritage latin.
Ce qui est intéressant, c'est que la romanité offre une sorte de vision du futur pour Mussolini et pour les fascistes italiens, et non pas du passé.
C'est une projection, c'est une volonté de se projeter dans l'avenir en s'appuyant sur des éléments du passé. Mais en même temps, il faut, je pense, tenir compte de la façon de développer des discours. Il me semble que l'art oratoire italien est toujours tenté par l'amplification, au risque du déséquilibre. Et il est vrai que le gouvernement fasciste a utilisé les souvenirs romains, l'histoire de Rome, comme facteur d'affirmation en matière extérieure. L'Italie se lance alors dans des conquêtes. Elle veut créer autour d'elle un empire, et l'image de l'Empire romain est l'image adéquate pour soutenir idéologiquement ce projet.
N'oublions pas non plus que l'Italie fasciste a elle aussi créé un musée de la romanité.
C'est
un grand événement, non ?
Un très grand événement qui peut se comprendre. C'est la fameuse Mostra Augustea, la grande exposition augustéenne à l'occasion du bimillénaire de la naissance d'Auguste. C'est un grand moment. Mais je remarquerai que hors d'Italie, l'événement n'a pas eu les mêmes échos ou les échos de même forme qu'il avait eu en Italie. Ce fut incontestablement un très grand moment pour l'Italie, et c'est maintenant pour nous quelque chose qui entre dans le passé d'une discipline et qui est retraité avec du recul.
Nous sommes en 1938, donc un moment d'apogée de ce fascisme italien.
C'est un moment d'exaltation, sans aucun doute. J'ai eu l'occasion de trouver ce petit livre en Italie. Il y a eu vraiment une mobilisation pour le bimillénaire d'Auguste, une mobilisation des énergies intellectuelles. Le parti fasciste s'est engagé dans ces manifestations. C'était un moment de gloire. Après quelques succès, c'était un moment où, sans aucun doute, l'Italie s'est sentie très, très sûre d'elle.
Aujourd'hui, la romanité revient. Qui serait l'inventeur, le créateur de cette notion, bien sûr ancienne, de romanité ?
Et je me référerai peut-être à l'humour ou l'ironie de notre ami Christian Gunino. Peut-être que si on l'avait invité à participer à ce festin intellectuel, avec son caractère si particulier, si intéressant, il aurait dit « la romanita », un point d'interrogation. Peut-être aurait-il ajouté « la cosiddetta romanita », c'est-à-dire « cosiddetta », c'est pour ainsi dire. C'est quelque chose qui est dit comme si c'était... Il aurait pris l'expression avec un peu d'ironie, et il aurait aussi trouvé une chute pour nous donner quelques clés.
En tout cas, ce n'est pas Christian Gunino qui me l'a dit, mais j'ai entendu dire que c'était Frèche, donc, qui aurait créé cette notion de romanité.
Peut-être que le mot a été lancé par Georges Frèche au moment où il avait envisagé la création du musée de Narbonne.
En tout cas, est-ce que cette romanité, ce n'est pas un gros mot ?
Si on peut dire, oui.
En Italie, la Ligue du Nord, aujourd'hui au pouvoir, revendiquait depuis longtemps cette romanité. Est-elle aujourd'hui réaffirmée comme outil de mobilisation politique ?
C'est à voir.
Allez, Michel Christol. Merci beaucoup. Carbone 14 était réalisé par Vanessa Nadjar, à la technique Alain Joubert, et avec la collaboration de Sandrine Chaperon. Vous pouvez écouter ou podcaster Carbone 14 sur le site de franceculture.fr ou retrouver plus de 300 archives sur le site inrap.fr. La semaine prochaine, nous serons sur le terrain de Port-en-Bessin pour y découvrir une légion romaine. Tiens, voilà du romain.